Voilà, ce matin, nous poursuivons notre série dans le livre de la Genèse. Et c'est le dernier volet de cette série. Et puis ensuite, il y aura une deuxième série dans le livre de la Genèse, Dieu voulant, après Pâques. Donc nous sommes au chapitre 10 et le chapitre 11, à la page 8. Alors, il y a beaucoup de noms compliqués, donc il faut patienter avec moi. Et sans doute, j'invente un peu la prononciation. Je ferai mon mieux. Chapitre 10, verset 1. Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Ils eurent des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, répartis par territoire d'après la langue, groupés par clans dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sabta, Rema et Sabteka. Les fils de Rema, Seba et Dedan. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érech, Akkad et Calné dans le pays de Chinéa. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit à Ninive, Rehoboth, Hir, Kalesh et Rezen entre Ninive et Kalash, la grande ville. Mitzraïm eut pour descendants les Ludim, les Ananim, les Laabim, les Naphutuim, les Patrusim, les Casluim, dont sont issus les Philistins et les Kaphtorim. Canaan eut pour descendants Sidon, son fils aîné et Chet, aussi, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Guergasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les clans des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon, du côté de Gérar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Voilà quels sont les fils de Cham, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Le frère aîné de Japhet, Sem, eut aussi des fils. Il fut l'ancêtre de tous les descendants d'Héber. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpakshad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Uts, Ul, Geter et Mash. Arpakshad eut pour fils Shelar et Shelar eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'un était Peleg, parce que c'est à son époque que la terre fut partagée. Et celui de son frère était Yoktan. Yoktan eut pour fils Almodad, Shelef, Hatsamaveit, Yerach, Adoram, Utsal, Ikla, Ubal, Abimael, Seba, Ophir, Hafila et Yudbab. Tous ceux-là furent les fils de Yoktan. Ils habitèrent depuis Mesha jusqu'à Sephar, la montagne de l'Est. Voilà quels sont les fils de Sem, groupés par clan et par langue dans leur territoire et leur nation. Tels sont les clans des fils de Noé en fonction de leur lignée avec la nation. C'est ces deux que sont issues les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar. Ils s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons. » Et brouillant leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpakshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpakshad et eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpakshad eut pour fils Shelar. Arpakshad vécut 403 ans après la naissance de Shelar et eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shelar eut pour fils Héber. Shelar qu'il a vécu 403 ans après la naissance d'Héber, il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Péleg. Héber a vécu 430 ans après la naissance de Péleg et eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg eut pour fils Reu. Péleg vécut 209 ans après la naissance de Reu et eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Reu eut pour fils Serug. Reu vécut 207 ans après la naissance de Serug et eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Serug eut pour fils Nahor. Serug vécut 200 ans après la naissance de Nahor et des fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nahor eut pour fils Terah. Nahor vécut 119 ans après la naissance de Terah et eut des fils et des filles. Terah était âgé de 70 ans lorsqu'il eut Abram, Nahor et Haran. Voici la lignée de Terah. Terah eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Haran eut Lot. Haran mourut du vivant de son père, Terah, dans le pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Sarah, et la femme de Nahor, Milka. Elle était la fille d'Haran, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terah prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, sa belle-fille Sarah, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Terah vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Voici notre lecture pour ce matin. Pour cette semaine, il y a eu un sommet international en Argentine, donc les pays du G20. Et les pays du G20 représentent plus de 60% de la population mondiale, plus de 80% du commerce mondial, plus de 90% de la richesse mondiale. Comme d'habitude, c'était un sommet sur fond de tensions. La Russie, ses relations plus que difficiles avec son voisin l'Ukraine posent problème. La présence du prince Salman d'Arabie Saoudite était gênante. Un tel sommet montre l'unité quand même de l'humanité. Que soient nos différences culturelles, linguistiques, religieuses, on fait tous quand même partie de cette humanité, cette seule humanité. Et en même temps, un tel sommet montre notre désunion. Parce que c'est difficile de s'entendre, c'est difficile de travailler ensemble. On peut penser à plus près de chez nous, à l'Europe, à l'Union européenne avec ses 28 pays. C'est difficile de s'entendre avec beaucoup de langues différentes, peut-être plus simple après la sortie des Anglais, mais même après, l'anglais restera sans doute la langue de l'Europe, même si même entre anglophones, on a du mal à nous comprendre parfois, et j'en sais quelque chose, étant une famille anglo-américaine. Alors, dans notre passage de ce matin, on va parler de ces langues, mais aussi des nations, de toutes les nations de la Terre, de leur union, de leur désunion. Plus ça change, plus c'est malheureusement la même chose, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans un premier temps, en écoutant ce passage, j'aimerais que nous écoutions l'exhortation suivante. C'est la première partie de ce message. Ne succombons pas à la folie humaine. Ne succombons pas à la folie humaine. Nous sommes ici dans la dernière partie de la première partie du livre de la Genèse. Parce que les 11 premiers chapitres de ce livre forment le prologue de ce livre. Et aussi, en quelque sorte, le prologue de toute la Bible. Et on a affaire ici à l'histoire de l'Antiquité lointaine, de tout ce qui s'est passé avant Abraham. Abraham qui a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 4000 ans pour nous. C'est de l'histoire antique. Et ces dernières semaines, on a parlé de la création, on a parlé de la chute de l'humanité, son péché, de son exclusion du jardin, de la présence de Dieu. On a parlé aussi du jugement universel de Dieu dans le déluge et le salut par cette arche, avec Noé et sa famille. Et ce matin, nous allons nous pencher sur le récit qui évoque la ville et la tour de Babel. Alors, au chapitre 10, on a affaire à une généalogie. Cette fois-ci, des trois fils de Noé, qui ont été sauvés avec Noé dans l'arche. Japhet, Cham et Sem. Ou plutôt dans l'autre ordre, dans l'ordre des naissances, Sem, Cham et Japhet. Et le verset 32, à la fin de la généalogie, déclare ou conclut. Tels sont les clans des fils de Noé, en fonction de leur lignée avec leur nation. C'est d'eux qui sont issues les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Moïse, l'auteur de ce livre, recense ici 70 nations. Il n'est sans doute pas exhaustif, c'est un chiffre hautement symbolique. 7 renvoie à l'idée de perfection dans la pensée biblique. Et 70 encore plus, 70 nations. Donc il s'agit de toutes les nations de la terre. 70 nations, et parmi ces nations, je schématise un peu, les bonnes, celles de Sem, les moins bonnes, peut-être un peu neutres, celles de Japhet, et les pas bonnes du tout, celles de Cham. Les nations proches d'Israël, comme voilà, la famille de Sem. Les nations lointaines au fin fond de la terre. Les nations que les Israélites ne connaissent pas en quelque sorte. Mais aussi les ennemis ou les futurs ennemis d'Israël. On voit par exemple ce personnage de l'Antiquité, Nimrod, qui va fonder Ninive, qui va fonder Babylone, deux villes qui à l'avenir, à partir de la perspective de ce texte, qui vont marquer négativement, brutalement, l'histoire de la nation d'Israël. En tout cas, l'auteur Moïse dépeint, brosse le tableau des Nations Unies de l'époque. 70 nations, toutes les nations de la terre. Et ensuite, la suite du récit nous montre leur union. Insérée après cette généalogie, et avant une autre, celle de Sem, selon une lignée différente, se trouve ce récit de la construction de la ville et de la tour de Babel. Cette tour nous fascine, elle a fasciné beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes. Il est un récit incontournable à l'école du dimanche pour les enfants. Alors l'auteur ne dit pas de manière explicite quand tout ça a eu lieu. Ce n'est pas forcément strictement chronologique avec la généalogie, parce qu'à la fin de la généalogie, il parle des nations déjà dispersées sur la terre. Et ensuite, on a ce récit où très clairement, c'était avant que les nations soient dispersées sur la terre. En même temps, le verset 24 du chapitre 10, je ne sais pas si vous avez noté ça, évoque un moment de division. Le monde a été partagé pendant l'époque ou pendant la vie des fils de Héber. Peut-être ça renvoie à ce moment précis. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce récit si célèbre de la tour de Babel? Est-ce qu'on doit comprendre ça de manière littérale, de manière historique, de manière théologique? C'est vrai, certains pensent qu'il s'agit d'une réécriture un peu polémique contre l'histoire païenne de l'époque, les croyances païennes de l'époque, une réécriture qui affirmerait la souveraineté du Dieu créateur unique face à ces croyances païennes de l'époque où il y avait plein de dieux qui luttaient entre eux. Ce qui est historiquement certain, en tout cas de manière séculière, c'est que de telles tours existaient bel et bien dans la région de Chinéa et en Babylonie. On les appelait Ziggurat, ça dépend, Wikipédia, je vois, il y a les deux. Nebuchadnezzar, que nous retrouvons plus tard dans le récit de Daniel, on a construit une. Il en a construit une sur les fondements d'une autre bien plus antique qui, selon lui, et on peut écrire des choses, que cette première ziggurat, cette tour, avait été délaissée, abandonnée, sans explication. En tout cas, le phénomène est bien historique et les fouilles archéologiques en témoignent. La présence d'une telle tour à cette époque est donc tout à fait crédible. Même si on parle ici de l'Antiquité lointaine, et l'auteur n'essaie pas de raconter cette histoire selon les normes scientifiques ou sociales de notre époque. En tout cas, on n'est pas en train de parler d'un mythe farfelu, même si, très clairement, l'auteur venu donner une explication théologique. Je pense qu'on est en présence de quelque chose de bien historique. Mais intéressons-nous à ce récit qui a été finement construit. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature en hébreu. Et voyons de près la folie, la démesure de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Le texte plante un peu le décor. L'unité de la population, une seule langue, les mêmes mots. Ces hommes sont en mouvement, ils partent de l'Est. On a déjà vu dans le récit de la Genèse que l'Éternel a mis des anges à l'Est d'Éden. Donc Adam et Ève sont partis vers l'Est. En tout cas, ces hommes et ces femmes s'installent dans la plaine au pays de Shinéa. C'est la région au sud de l'Irak. C'est le territoire qui a vu naître des civilisations anciennes. Et ensuite, on a leurs mots, les mots des hommes. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Ce sont des pratiques architecturales bien attestées, bien documentées de l'époque, qui nous montrent qu'il s'agit d'un bâtiment de qualité, à plus un peu sur l'échelle de qualité. Ça veut dire qu'ils se sont donné des moyens, ils ont investi dans ce bâtiment. Et au verset 4, c'est encore leurs mots, les mots des hommes. Nous apprenons le pourquoi de leur préparation. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Et là, en si peu de mots, d'une manière succincte, on a le cri, le rêve, le projet de l'humanité sans Dieu. L'humanité qui se donne les moyens, qui veut dépendre d'elle-même, exister par elle-même. C'est une ville. Avec une tour, souvent on ne pense qu'à la tour, mais en fait c'est tout un ensemble. Et à l'époque, ces ziggourats étaient des temples païens avec des bâtiments publics autour et qui avaient ce but de monter au ciel, de monter jusqu'au Dieu. Le mot Babylone, dans leur langue, voulait dire en effet porte de Dieu, porte du Dieu, en fait portail au ciel en quelque sorte. Ce que ces hommes disent, nous montrent leur désir d'être à la hauteur des dieux, comme des dieux. Ce sommet devait toucher le ciel. Et le but était de se faire un nom pour eux-mêmes. Et cette idée de nom rime avec la gloire. C'est un peu comme le renom ou la renommée. C'est un édifice à la gloire de l'humanité. Pour célébrer sa renommée, c'est de l'orgueil, l'arrogance humaine la plus exaltée. Il y a aussi un refus des intentions de Dieu. Ils ne veulent pas être dispersés. Ils veulent être en sécurité. Ensemble, l'union fait la force. Force est de constater, par contre, que cette unité est orientée contre Dieu. C'est une folie ancienne, mais ô combien moderne aussi. Moïse, l'auteur, vient de parler de toutes les nations de la terre. Ce récit est inséré un peu dans ce tableau des Nations Unies de l'époque. Parce que cet orgueil nous concerne tous, concerne chaque membre de la race humaine. On est tous concernés par cette arrogance où on veut exalter l'homme, où on veut être comme Dieu. C'est dans notre nature corrompue de penser comme ça. Nous vivons une culture occidentale qui n'a pas honte de mettre l'homme au centre de l'univers. D'une certaine manière, notre culture abaisse l'homme aussi parce que notre culture nous dit que l'homme est simplement un singe évolué, juste un des animaux de la terre. Mais en même temps, notre culture nous dit que l'homme, l'humanité, elle est en quelque sorte la somme de toutes choses. Les lumières, le siècle des lumières, a mis l'homme au centre. L'homme serait la mesure de toutes choses, par sa raison, par son intelligence. Il prétend expliquer tout. Il déciderait seul de ce qui est moralement juste ou pas. En France, on célèbre nos grands hommes en les mettant dans le palais, le Panthéon. Un temple pour célébrer la gloire de l'homme. C'est au cœur de notre civilisation occidentale et française. Même nos grands projets politiques, l'Europe et les Nations Unies, expriment quelque chose de cet esprit-là. Même si on peut être bien reconnaissant pour les systèmes politiques qui nous donnent la paix. On peut être reconnaissant pour les progrès technologiques, etc. Mais on serait naïf, je pense, de ne pas voir quelque chose de cet esprit, l'esprit qu'on voit dans ce passage. Construisons-nous une ville, faisons-nous un nom. Cet esprit-là, ce n'est pas juste une question de la culture occidentale ou. En fait, ça nous concerne tous, ça concerne nos cœurs. Parce que qui ne veut pas être quelqu'un? On veut réussir nos vies, nos carrières. On veut avoir une bonne réputation. On veut nous donner des moyens pour contre tout risque. pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pour être bien vu? Pour gagner de l'approbation? Me faire un nom? Parce que dès notre jeune âge, nous voulons que nos vies comptent. On nous dit que nos vies doivent compter. On célèbre des exemples de réussite de personnes qui ont surmonté des obstacles, qui y arrivent. Peut-être que vous êtes sur le point d'aller à la fac, par exemple. Ou vous êtes au début de votre vie professionnelle. Quel est votre rêve? Vous faire un nom? Réussir? Vous mettre à l'abri? Alors, nos intentions sont variées et complexes. Il y a beaucoup à dire. Mais ce passage peut nous aider à sonder nos cœurs. Votre projet a quoi comme but ultime? Les pasteurs ne sont pas à l'abri de cette tentation d'avoir un projet, une vie centrée sur l'homme. Le ministère pastoral peut facilement devenir le moyen par lequel nous existons, par lequel nous sommes quelque chose aux yeux des autres, peut-être en vertu d'une certaine sagesse ou un don, une réputation, par le nombre de personnes à l'église, par le rayonnement du ministère de leur église, par l'invitation à des conférences. C'est insidieux, l'esprit. Il nous concerne tous. Et la suite de notre passage nous montre que cette auto-exaltation est futile et mensongère. Et si nous y succombons, tôt ou tard, on rentre dans le mur. Dans cette vie, c'est peut-être le burn-out, la dépression, le désespoir, la déception, les dégâts familiaux, l'amertume, le suicide même. Et ensuite, pire, face à Dieu lui-même, dans le jugement. Passons à la deuxième partie de ce message. Deuxième exhortation. Reconnaissons la suprématie de Dieu. Et le verset 5, c'est au beau milieu de ce passage au chapitre 11, ce récit concernant la tour de Babel. Et l'auteur a construit son récit pour que ce verset soit bien au centre. Il veut braquer les pleins phares sur ce verset. Et on y voit Dieu. On voit Dieu, le maître de l'univers. Et face à lui, cette exaltation de soi, exaltation humaine, est ridicule. Totalement ridicule. Verset 5, que fait Dieu ? L'Éternel descend. Il descend. Et en fait, l'auteur parle de manière ironique. En fait, cette tour qui est censée toucher le ciel, elle est tellement pathétique, tellement petite, que Dieu doit descendre pour la voir. Bien sûr, l'auteur, Moïse, parle de manière littéraire pour nous communiquer une grande vérité. C'est un peu comme quand nous prenons l'avion et nous voyons les monuments de Paris d'en haut. La tour Eiffel est toute petite. On dit voilà, même nos exploits les plus splendides sont finalement très petits. Ensuite, verset 6, c'est Dieu qui parle et ses paroles sont puissantes, bien supérieures à celles des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu voit que cette unité pose problème. Elle ne poserait pas problème si le cœur de l'homme était dévoué envers Dieu, mais le cœur de l'homme est dévoué à sa propre exaltation. Et donc ce que Dieu fait par la suite est à la fois un jugement à l'égard de l'humanité, mais aussi un acte de miséricorde. Verset 7, « Allons, descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Oui, c'est un jugement, mais c'est aussi quelque chose que Dieu a fait pour limiter le mal que l'humanité peut faire. L'union fait la force, oui, parfois pour le bien, mais souvent au service du mal. Les empires humains tentent de rassembler des nations, des peuples différents, avec des langues différentes. Et ces empires humains sont toujours fragiles. Ils s'écroulent tôt ou tard. On revient plutôt à des nations avec une seule langue. Peut-être la Suisse est une exception. En tout cas, nos langues différentes nous empêchent très souvent de travailler ensemble. Ça nous empêche de monter des projets pharaoniques ou trop ambitieux. En quelque sorte, Dieu y a mis son holà. Et en fait, c'est une grâce. Ça limite le mal que nous pouvons faire. Ensuite, on voit que Dieu a dispersé les hommes. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Ils arrêtèrent de bâtir la ville. Dieu a le dernier mot. Ça nous rappelle en quelque sorte le psaume 2, le deuxième psaume, où on lit « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, contre son roi? Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque de notre rébellion à son égard, notre exaltation humaine pathétique. Elle est ridicule. Parce que Dieu seul est suprême. C'est lui le maître de l'univers. Notre humanisme athée qui se glorifie, qui déifie l'homme, sa sagesse, ses exploits, es-tu bonnement ridicule à ses yeux? Oui, la créativité, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Elle est bonne. On peut créer de belles choses, on peut écrire de beaux textes, on peut peindre de beaux tableaux. Et on doit célébrer cette créativité et la célébrer en remerciant notre Créateur qui nous l'a donnée, en reconnaissant sa suprématie absolue. Il est notre Créateur à qui nous devons l'honneur. Et tous nos projets formés contre lui, qu'il exclut, qu'il ignore, qu'il le supprime, qu'il écarte, ne parviendront pas. Dieu a toujours le dernier mot. Ici, on voit, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est l'abandon du projet. Et très souvent, nos grands projets finissent par être abandonnés. Faute de moyens ou des conflits humains. Et tant de vies dévouées à la réussite professionnelle, artistique, sociale, finissent par laisser un goût amer dans la bouche de ceux qui s'y sont dévoués. Même pour ceux qui ont connu un certain succès. Et ce goût amer sera d'autant plus amer face à Dieu, face à lui dans le jugement. Le dernier verset de ce récit nous parle du nom de cette ville délaissée, abandonnée. Elle s'appelle Babel. Et le même mot en hébreu pour Babylone, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. En fait, c'est un jeu de mots en hébreu. Babylone, en leur langue, portail menant au ciel. Mais non, c'est pas ça. En hébreu, ça sonne plutôt comme le mot confusion. Et c'est Dieu qui a semé cette confusion. C'est lui le maître de l'univers. C'est lui qui est le souverain sur cette ville. Dans la suite de la Bible, Babylone sera la ville qui s'oppose au peuple de Dieu, qui s'attaque à Jérusalem, qui la détruit. Elle sera détruite elle-même. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre parle de manière poétique ou littéraire, si je puis dire, de Rome comme Babylone. C'est dans sa première lettre. Il parle de l'homme qui s'oppose à Dieu. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, reprendra cette image. Babylone la Grande, c'est l'humanité dans toute son effronterie à l'égard de Dieu. Et dans l'Apocalypse, on lit, on voit que cette ville chutera. Elle sera condamnée, jugée, détruite. Parce qu'à chaque fois, Dieu a le dernier mot. C'est toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. Dieu est le maître souverain de l'univers. Après le Nouveau Testament, Augustin, Saint Augustin, parlera de la cité de la terre, ou la cité terrestre, et de la cité de Dieu. Ce passage, comme toute la Bible, nous sommes donc à reconnaître la suprématie de Dieu et la futilité de toute élévation humaine. Elle est ridicule. Il y a un refrain qui se répète dans la Bible, un verset de l'Ancien Testament qui est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Le voici. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans la suite de ce passage, après ce passage, mais même si on a déjà quelques notions dans notre passage de ce matin, on voit quelque chose de cette grâce. Dans la suite de notre passage de ce matin, on a affaire à une autre généalogie, toujours celle de Sem. On a déjà eu sa généalogie au chapitre 10, pour nous montrer que Sem faisait partie des nations de toute la terre. Mais il y a aussi une autre lignée qui est suivie au chapitre 11. On avait déjà dit qu'au verset 25 du chapitre 10, il y a comme une division. Héber avait deux fils, Péleg et Yoctan. On a eu la descendance de Yoctan au chapitre 10. Et ici, au chapitre 11, on suit plutôt la descendance de Sem par Péleg. Et on voit à la fin de ce passage qu'on a Théra, qui est le père d'Abraham. Et c'est comme si, à la fin de cette section du livre de la Genèse, c'est comme s'il y a une division dans l'humanité. On va voir, lorsqu'on reprend le texte après Pâques, que Dieu choisit Abraham. Théra, son père, lui aussi avait fait le choix de partir, de quitter sa ville, Ur des Chaldées, pour aller dans le pays de Canaan. Mais il a abandonné son projet. Ce n'est pas lui qui allait faire ça. C'est Abraham, à la suite de son appel, qui fera ce voyage, qui le fera par la foi. En dépendant de ses efforts, on voit déjà que sa femme est stérile. C'est Dieu qui va pourvoir. C'est Dieu qui va faire. On va tricher un peu et juste lire un verset du chapitre 12. C'est le verset 2. et voir quelque chose de ce que Dieu va faire à l'avenir. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi, c'est Dieu qui parle, une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est Dieu qui va faire ces choses. C'est une grâce, c'est un cadeau. Ce n'est pas l'homme qui peut se procurer ces choses par ses efforts, par l'exaltation de ses œuvres. C'est tout le contraire, ce qu'on a vu à Babel. C'est Dieu qui va rendre le nom d'Abraham grand. Il va lui donner un grand nom. C'est Dieu qui va le faire. Et dans la suite de la Genèse, on va voir que ces promesses passent de génération en génération. Nous sommes toujours à la recherche de ce fils qui va défaire la chute, qui va résoudre notre problème. Et ces promesses passent de génération en génération. Et on va voir la semaine prochaine, lorsqu'on commence notre série pour l'Avent, dans l'évangile de Matthieu, que c'est par un fils d'Abraham qui va naître à Bethléem que ces promesses vont s'accomplir. Le nom de ce fils-là sera grand. Et en lui, il y a une vraie bénédiction. Nous sommes donc au dernier volet de notre prédication de ce matin. Et voici une troisième exhortation après « Ne succombons pas à la folie humaine ». Et donc celle-ci, c'est « Refugions-nous dans la gloire de notre Dieu ». On a vu il y a quelques semaines, lors de notre culte anniversaire au Théâtre de la Garenne, qu'au lieu de s'exalter, Jésus s'est humilié. Je cite Philippiens 2, « Existant en forme de Dieu, Jésus, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la croix. Est-ce que vous voyez que c'est vraiment tout le contraire de ce qui se fait à Babel? Les hommes tentent d'aller vers Dieu, d'être comme Dieu, dans l'arrogance absolue. Dieu, fils, prend une chair humaine. Il s'humilie, il descend, il sert, il obéit à Dieu. Et dans la suite de Philippiens 2, on voit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Que toute langue, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » On l'a dit, notre passage dans la Genèse commence à prévoir cette division dans l'humanité et le début d'une nouvelle humanité tirée de toutes les nations de la terre pour bénir toutes les nations de la terre. Et c'est lui, Christ, cette nouvelle humanité. Jésus a dit, moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça commence à la croix, cette élévation, il va jusqu'à la droite du Père. Ça commence avec le deuxième brigand sur la croix qui s'est abaissé pour trouver en Jésus le refuge dont il avait besoin. Le premier brigand s'est entêté dans son orgueil, moqueur. À la Pentecôte, Pierre et les autres apôtres ayant reçu d'une manière spectaculaire, le Saint-Esprit ont annoncé la bonne nouvelle à des personnes réunies ce jour-là de beaucoup de nations différentes, parlant des langues différentes, c'est plutôt ça. Et ils ont annoncé la bonne nouvelle avec des langues qu'ils n'avaient pas apprises eux-mêmes, c'était un miracle. Et ces personnes ont fléchi le genou devant Jésus, celui à qui Dieu a donné le nom le plus exalté. Et on commence à voir une nouvelle unité qui se forme, une nouvelle humanité autour de Jésus, autour de celui qui a été élevé, qui a la plus haute place. Notre refuge du jugement de Dieu est en lui. Le repos, la bénédiction, la consolation, la signification se trouvent en lui. Pour tous ceux qui s'humilient, qui disent avec Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse, que Jésus croisse, que moi je diminue. Et ça, c'est tellement difficile, n'est-ce pas? Parce que tout en nous veut faire le contraire. Dépendre de l'homme, exalter l'homme, s'exalter. Dépendre de nos propres efforts, créer notre propre bonheur. Et Jésus nous invite à mourir à nous-mêmes, à nous abaisser. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Et comme Jésus, Moïse met devant ses lecteurs ce choix. La cité de la terre, terrestre, celle des hommes, ou la cité de Dieu. Nous sommes, nous aussi, quotidiennement devant ce même choix. Exalter l'homme, s'exalter soi-même, ou s'abaisser pour suivre Jésus, celui à qui Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ces choix-là se vivent dans une myriade de petits choix dans notre quotidien. Il faut qu'ils croissent et que moi, je diminue. Quand je pense à notre église ici, est-ce qu'on cherche d'abord à avoir, en tant qu'église, une bonne réputation, peut-être à la Garenne, avec les responsables de la ville, la municipalité? Est-ce qu'on cherche d'abord peut-être à agrandir, à être une grande église, à nous doter de moyens? Ou est-ce que notre vœu le plus sincère, c'est vraiment d'exalter Christ, de faire en sorte que son nom soit connu partout, même dans les villes avoisinantes? C'est une question que nous devons nous poser, que moi je dois me poser souvent, parce que justement nos cœurs sont tortueux. On a de nouveaux cœurs grâce au Saint-Esprit, mais on lutte avec la chair est faible. Le cadre à la défense, le collégien, la lycéenne, la maman au foyer, le retraité. Oui, on a tous des vocations différentes, à des moments différents de la vie. On a chacun nos projets, des rêves, des opportunités. Merci Seigneur. Je ne sais pas quel est votre projet en ce moment, ou ce que vous construisez, peut-être très légitimement, à ce stade de votre vie. Ces opportunités que le Seigneur lui-même nous donne, que le Seigneur nous aide à fixer notre regard sur Jésus, que le Seigneur nous aide par l'Esprit, par l'Évangile, à nous abaisser, nous humilier, à fixer notre regard sur celui qui est exalté, le Sauveur exalté. Notre plus grande joie dépend de lui. Ne succombons pas donc à la folie humaine. Dieu a exalté Christ, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et en fait, notre joie, notre sécurité, notre signification se trouve en lui. Il nous donne un nouveau nom, son nom. Le nom de Jésus sera honoré. Chacun pliera le genou devant lui un jour. La cité céleste, construite par Dieu, descendra du ciel. L'agneau et son père seront exaltés. Que le Seigneur nous apprenne, nous, à faire ça maintenant, dès maintenant, et à trouver notre joie, notre paix, notre signification en Christ seul. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père céleste, merci pour ce passage qui nous montre d'une manière si claire nos cœurs, la tentation de nos cœurs, cette tentation de nous exalter au lieu de t'exalter. Et Père, nous voulons reconnaître devant toi que si souvent, c'est exactement ce que nous faisons. Cherchons la gloire de notre nom plutôt que la gloire du nom de ton Fils pour ta gloire, individuellement, en famille, en Église. Et notre bon Père céleste, nous voulons te dire pardon. Nous voulons te dire merci pour le pardon. Nous voulons te dire merci pour notre Sauveur qui, lui, a fait le contraire, s'est humilié et descendu, t'a obéi. Et ça pour que nous puissions connaître la réconciliation, échapper à ton juste jugement. Notre bon Père céleste, nous voulons te demander de nous aider à nous humilier devant lui, à renoncer à nous-mêmes, à suivre notre Sauveur, à fixer nos yeux sur celui que tu as exalté. Merci de ce que notre signification, notre joie, notre sécurité est en lui. Aide-nous à fixer notre regard sur lui cette semaine. Nous t'en prions. En son nom. Amen.